Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Un nouveau report des élections des maires et adjoints aux maires a été annoncé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, Monsieur Awate Odabalo, prévu initialement du 17 au 19 septembre 2025. Les premières réunions des nouveaux conseillers municipaux sont reportées à une date ultérieure. Il s'agit du troisième report de cette échéance. La décision a été officialisée dans une note au préfet datée du 16 septembre 2025, signée par le ministre Awate Odabalo. Le document, qui est également adressé au gouverneur, précise que les modalités d'organisation de ces réunions seront communiquées ultérieurement. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons bien sûr en parler et aborder d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués bien sûr par des journaux parus aujourd'hui. Nous allons bien sûr en parler dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 16 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Bitomiga était à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. Je sais que vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous suivre dans cette émission Club de la Presse. Et c'est toujours avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Germain Doubidi. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour fidèle auditeur du Christ de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est toujours un plaisir.
Le plaisir est justement partagé. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Jeunesse Info et aussi du site internet ou du site d'information Interface, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de se rendre disponible. Alors, pour décrypter l'actualité avec nous, Eric Parcoudio-Diosson, toujours fidèle du mardi. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Dieu merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est
et
moi
de se
qui
rendre
vous salue.
Aussi disponible pour décrypter l'actualité. Notre chroniqueur de chaque mardi est là, Claude Assiobotis. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Le mardi dernier, vous n'étiez pas là. Justement, je l'ai annoncé à nos auditeurs que vous avez eu justement un empêchement. Merci de répondre toujours présent à ce rendez-vous.
Ah oui, mais je vous remercie aussi. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes disponible à faire pour la littérature togolaise.
Merci Claude, et je pense que c'est un travail à nous tous et c'est ce que nous faisons ensemble. Alors pour que du moins la littérature togolaise évolue et pourquoi pas la culture en général. Et nous évoluons encore aujourd'hui dans le livre de Koumi Allo Anaté, auteur de Frontières du jour. Après la nouvelle et le rap, notre chronique va s'intéresser aujourd'hui à une autre nouvelle pour exploiter notre thématique corps de femme. Femme d'esprit. Cette nouvelle a pour titre La colombe blessée. Claude, cette colombe blessée, est-ce que ce n'est pas évidemment l'héroïne alors du récit nommé Assima?
Oui, Assima, évidemment, la colombe blessée, c'est une question. Oui, Assima est le personnage central de la nouvelle. On peut penser sans erreur qu'elle est la colombe blessée, vu son histoire que je peux vous faire entrevoir à travers cette lecture à la page 132 du livre. Asima, né sans histoire, de parents sans histoire, dans un village sans histoire, elle a grandi comme la plupart des gens sans histoire. Jeune femme, elle épouse un homme sans histoire, venant d'un village voisin sans histoire. Mais un endroit, une personne, n'est sans histoire que vue de loin. Une société est toujours un volcan de conflits ouverts ou latents. L'œil de la société veille et traque les hommes sans histoire afin de les charger d'histoire, tellement lourdes qu'ils ne peuvent les porter. Et si vous connaissez l'histoire d'Asima, on ne peut raisonnablement conclure que elle est aussi une colombe blessée. Mais la vraie colombe blessée, c'est l'enfant martyr innocent dont il est question dans l'œuvre. Cet enfant que le narrateur, disons plutôt la narratrice, nous dévoile d'abord d'une façon anonyme à travers son rêve cauchemar au tout début du récit, qui dit « La nuit était avancée. J'étais plongé dans les méandres d'un cauchemar. » L'enfant, point. L'enfant, c'est toute une phrase. Hein. Mmh. Ça aura son sens après. C'est une mise en relief avec cette petite phrase nominale. Hein. Son visage est massier, point. Je le vois. Je lis la tristesse et la peur dans ses yeux. Il court pour chasser par je ne sais quel ogre. Et au milieu du récit, lorsqu'on va au récit, comme je le dis, le narrateur sorti de son cauchemar se fait explicite sur l'enfant. On voit un enfant, maintenant concrètement, non plus dans un rêve, et on connaît son sexe. C'est plutôt une enfant, une fille. On connaît aussi son état. Elle est malade et on connaît son nom. Elle s'appelle Tina. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Il y a apparemment une colombe blessée qui est la Asima, oui. Femme, et la vraie colombe, selon l'auteur, on va le voir après, c'est l'enfant, l'innocence blessée.
L'innocence blessée, Tina, en question justement. Et cette nouvelle étale une tonalité très pathétique par l'histoire d'Asima et l'enfant Tina, tel que vous l'avez dit tout de suite, mais cache beaucoup de densité philosophique, pour ne pas dire sociologique. Alors Claude, pouvez-vous nous aider à comprendre un peu plus cela?
Oui, on peut dire que dans ce livre, c'est la nouvelle la plus philosophique. Hein, à mon avis, bien sûr, comme tout texte a toujours une philosophie. Mais ici, ça se voit à la surface. Et la problématique philosophique que je décèle dans cette nouvelle, on peut la formuler de la façon suivante. La partie la plus sacrée du corps de la femme, je veux dire ses entrailles, le temple de sa maternité, c'est de là que sort l'enfant. Mmh.
Mais qu'est-ce que le temple de sa maternité?
Le temple de sa maternité, ce sont ses entrailles. Mmh. Et c'est la partie sacrée de la femme, nous le savons.
Oui.
Et c'est le temple de l'enfant, et ce n'est pas pour rien que Dieu met dans ses seins le lait. Et le lait dans le vrai, pour moi, toute une symbolique qu'on n'a pas le temps d'exploiter. Alors, mais qu'est-ce que la société fait de cet enfant? Cette société, le narrateur la désigne dans son rêve cauchemar déjà par le mot ogre, c'est-à-dire un monstre qui dévore l'enfance, c'est-à-dire la vie. Ce constat nous permet d'étudier les personnages de la nouvelle en les classant en deux catégories. Les victimes ou les témoins de cette société, ogre. Cette première catégorie peut être considérée comme les héros du récit, qui volent au secours de l'enfant malade. À part la narratrice, il y a surtout Asima. C'est une femme stérile qui, par la force des choses, est devenue assistante sociale pour adopter et adorer les enfants. Pour n'avoir pas eu d'enfant elle-même, son entourage l'a soupçonné d'être la sorcière qui mange les enfants de sa co-épouse. Et elle a été soumise à des traitements humiliants et dégradants. Il y a la deuxième catégorie de personnages que nous pouvons considérer comme des anti-héros. Ils n'ont pas seulement... Ils ont pour seule excuse, leur limite, si je veux utiliser un terme de l'auteur, leur frontière. Et cette frontière, c'est l'ignorance. Et ces ignorants sont des instruments dont l'ogre, je veux dire la société, se sert pour détruire la vie symbolisée par l'enfance. C'est par exemple le mari d'Asima qui compare sa femme à une terre asséchée qui ne donne rien. Son mari qui croit tout bonnement que la stérilité du couple est due au ventre infertile de sa femme, sans se soucier que cela peut venir de lui, et trouve comme seule solution d'épouser une autre femme. C'est par exemple encore cette nouvelle venue dans le foyer, la seconde épouse, qui trouve dans le décès de ses enfants, comme bouc émissaire, la première co-épouse à Asima. Notons que sous l'insistance de l'infirmière du milieu, le couple fertile découvre qu'ils sont atteints tous deux d'une maladie héréditaire qui produira des enfants morts-nés ou tout au plus survivants et très fragiles. Mais cela ne les a pas empêchés de donner encore naissance à la moribonde Tina, qu'Asima devenue par un coup de théâtre leur assistante sociale. Après toutes les épreuves qu'elle a vécues, elle est récupérée de l'assistance sociale pour adopter les enfants. Hein? Et elle va en arriver à adopter et adorer Tina, qu'elle n'a pas pu sauver de la mort. Mais cette mort a une symbolique selon l'auteur. La citation finale de la narratrice empruntée à la Bible nous prouve à la fois, à la fin de la nouvelle, que cette mort d'enfant n'est pas pour l'auteur seulement la mort physique, c'est la mort sociale des enfants que symbolisent les enfants abandonnés dans les rues, par exemple, sur les dépotoirs, par exemple, des enfants qui sont sortis du temple sacré que sont les entrailles de la femme. Voilà,
à peu près, justement, pour ce qui concerne alors le centre d'intérêt de cette nouvelle que vous venez alors de décréter, on comprend que la partie invisible mais sacrée alors du corps de la femme, c'est ses entrailles, l'enfant qui en est le produit et ce qu'en fait la société, bien sûr. Eric, vous avez suivi Claude. Une question ou
Oui, moi je suis plutôt interpellé par la fin, c'est-à-dire l'attitude d'Asima qui, après avoir subi des injustices, se retrouve dans le rôle d'une
assistante sociale,
une protectrice, allons-nous dire,
voilà, de lui. Et donc, c'est pour moi la logique de l'opprimé qui se dit, moi j'ai subi tout ça, est-ce qu'il faudrait en faire subir à d'autres? Et donc ça devient un humanisme au forceps, c'est comme ça je caricature la chose. Et c'est très touchant et c'est très philosophique. Mais si Imaginons que Asima a réussi à sauver Tina. Quelle serait la suite de cette odyssée-là? Et donc, pour moi, si quelque part, il faudrait que la femme, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve au foyer, je me suis posé une question dès que Tina est rentrée dans le jeu. Est-ce que Tina même n'a pas été aussi enlevée hein, comme Asima elle-même? Je me suis posé cette question.
Enlevée. Donc,
est-ce que elle on l'a épousée avec toutes les règles hein, de mariage et tout
vous,
ça?
Vous ne parlez pas de Tina.
Tina, c'est l'enfant.
De l'autre. Tina, c'est l'enfant.
Voilà.
L'autre
épouse. Voilà.
Non, l'auteur a sciemment fait de ne pas même pas lui donner un nom. C'est un être anonyme.
Voilà.
Et ça aussi, c'est symbolique. Même le mari, est-ce qu'il a un nom? Je ne me souviens plus, je ne crois pas. Mais c'est Asima qui est le personnage central, hein, qui a tout converge vers elle. Oui. Cette femme n'a pas. Non, elle n'a pas été enlevée. Elle a été régulièrement épousée pour venir jouer le rôle que Asima n'a pas pu jouer.
Voilà
ça
encore.
Veut dire le mariage. C'est faire des enfants dans cette société, voilà.
Voilà, la profondeur de l'œuvre. Mmh. Et donc, moi, c'est des choses qui m'ont touché. Je ne l'ai pas lu, hein, très sincèrement, je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il y a quelque chose à tirer.
Non, c'est très profond.
C'est très profond.
De cette
œuvre. Oui. C'est vrai, Claude l'a dit hein, dans la chronique tout de suite. C'est vrai, il y a des femmes qui portent justement des enfants dans leur temple, comme Claude l'a décrit, mais au même moment, avec un autre... Oui, avec un trait justement, mais Claude l'a appelé temple, bien sûr, et au même moment, on retrouve peut-être alors ces enfants sur des deux potoirs. Ça arrive, c'est des phénomènes qui arrivent.
Oui, c'est, en tout cas, je pense que c'est la question de l'enfance brisée même. Et il y a de ces enfants que, malheureusement, les mamans n'ont pas désiré. Pourtant, ou les papas même, il y a cette question de l'enfance abandonnée et qu'on retrouve ces enfants sur les dépotoirs.
Mais ce qui est paradoxal, bien sûr, par rapport à ce que tu dis, ce qui est paradoxal, il y a d'autres également qui en désirent mais n'en trouvent pas.
C'est le paradoxe de la vie. C'est le paradoxe de la vie. Au moment où vous avez de l'abondance quelque part, où les gens ne savent pas quoi faire, il y a de la pénurie quelque part. Donc c'est tout le paradoxe même de l'existence. On n'a pas tout ce qu'on désire. On n'a pas une hétérogénéité ou soit une homogénéité
des choses, vous l'avez dit, oui.
Des choses dans la vie. Et donc, il y a effectivement ceux qui sont à la recherche de ces enfants et qui n'en trouvent pas, mais il y en a qui en ont trop ou qui ne désirent pas et justement, ils brisent l'enfance. Mais pas seulement les mamans ou les papas, mais la société elle-même. Quels sont les garde-fous que nous mettons même dans nos sociétés modernes pour protéger la vie ou protéger l'enfance? Est-ce qu'il y a des mesures coercitives par rapport à toutes ces choses-là? C'est pourquoi moi, je voudrais m'adresser au chroniqueur pour lui poser une question. Et quelle philosophie, justement, le livre véhicule par rapport à cette question de protection de l'enfance brisée? Est-ce qu'il y a une leçon qu'on peut tirer dans le livre par rapport à tous ces faits malencontreux qu'on retrouve, on voit envers des enfants?
Claude?
Oui, en réalité, je peux même résumer. Vous avez utilisé l'expression « juste l'enfance brisée ». Et l'enfance, ici, dans le livre, est brisée à la fois par l'ignorance des parents et par l'irresponsabilité des parents. Et le procès que l'auteur fait, c'est moins pour ces gens-là que pour la société elle-même, qui n'a pas de garde-fou. Hein? Et ça nous interpelle tous. Hein? Et lorsque on fait le procès de la société, c'est nous tous. Hein? Nous qui sommes membres et ceux qui dirigent cette société. Hein? C'est ça. Et l'auteur est une femme. Hein? Vous devez savoir qu'elle tire ça du plus profond d'elle-même, hein? De ce qu'elle observe. Bon, maintenant, chacun peut tirer sa leçon. Et il y en a plein dans ce récit dense, parce que c'est une nouvelle, mais profond. Hein, et chacun, selon son expérience, son regard, peut tirer sa leçon. Merci.
D'accord. Quand on parle de l'enfant ou de l'enfance, c'est aussi l'éducation. L'éducation, parlons-en, parlons de l'éducation. Et oui, on sait que nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire. C'était hier, bien sûr, la rentrée scolaire. Eric, vous êtes revenu hein, sur le sujet. Vous écrivez année scolaire 2025-2026, multiples innovations. Et vous écrivez à la suite de cela, introduction des outils digitaux dans les salle de classe, deux enseignants au cours moyen. Ça, c'est, ce sont des innovations, bien sûr, que nous pouvons retrouver cette année scolaire 2025-2026.
Évidemment. Évidemment. Il y en a plusieurs, mais nous sommes un peu appesantis sur les plus... comment je peux dire
les plus
marquantes, justement, parce que et c'est des innovations qui vont révolutionner le système éducatif de notre pays. Alors, il faut dire que c'est dans une tribune que nous avons appris quand même que on va introduire des outils digitaux dans les salles de classe. Et pour cette année, ce sont des établissements ou des salles d'école pilotes hein, où dans les cinq régions éducatives de notre pays. Et au fait, le ministre Cocoroco a eu à échanger avec un groupe qui est dans la technologie. Et c'est sur cette base-là que nous avons approché le ministère pour en savoir plus, puisque c'est pas encore dit, mais les tractations sont en cours et il nous a été vivement répété que ce sera pour cette année. Et donc là, on estime que c'est une innovation très importante. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est là où on va introduire les outils digitaux dans les salles de classe avec tout le programme qui concerne ces classes-là. Je pense que ça doit commencer avec les CM, les CM en pilote. Et donc, à la fin de l'année, on va faire une évaluation. Et si ça prospère, donc, les années suivantes, on va généraliser cela dans tous les établissements primaires du pays. Et là, je pense que il faut vivement, parce que il faut pas oublier qu'aujourd'hui, hein, selon le ministère, c'est qu'il faut aller avec notre temps. Et où la technologie est un peu partout, même quand vous faites la littérature, après, il faut aller sur l'ordinateur, il faut savoir saisir, il faut savoir mettre les applications, etc. Et donc, on estime que c'est à la base qu'il faut apprendre tout cela. La seconde innovation dont nous avons également parlé, c'est les deux enseignants pour les classes de CM1 et CM2. Et selon les explications, c'est que il y aura un enseignant qui, selon son cursus scolaire lui-même, est dans les sciences. Et donc, lui, on va le prendre peut-être pour le CM1 ou le CM2, et il y aura un autre enseignant qui a fait, bon, peut-être... les lettres. Et donc, l'un sera au CM1, l'autre au CM2. Et pour que les élèves puissent avoir les deux, donc il y a un au CM1, un au CM2, et donc, simultanément, ils vont faire les cours de lettres et les cours de sciences. Et là encore... L'innovation, c'est que tous ces enseignants-là seront véritablement formés par rapport à ces cours qu'ils vont dispenser aux enfants des cours moyens. Et donc, je crois que tel que cela a été expliqué, c'est qu'on veut que les enfants ne soient pas perturbés, puisque le constat aujourd'hui est que c'est en classe de 6e qu'il y a beaucoup plus d'échecs. Et pour ne pas perturber le cursus des enfants, on veut déjà les familiariser à ces changements de professeurs.
Si on veut faire une belle transition hein, voilà.
Du cours primaire au collège. Et donc, je crois que c'est de ces innovations-là que nous avons parlé. Et bon, faut pas oublier aussi qu'il y a le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui s'est un peu mêlé à la chose oui. À la rentrée en proposant une opération appelée
Rentrée sûre
2025 et pour protéger un peu les enfants et surtout pour faire un peu de pédagogie routière et éviter que aux alentours des écoles aussi, que ces petits groupes-là qui se forment, des gens qui font du n'importe quoi et qui attirent les enfants, et puis un peu aussi les bruits, tout ça là, pour éviter et tout ça que...
Bon,
on trouve que c'est quand même innovant.
D'accord.
Et voilà.
Klaus, vous avez exercé l'enseignement pendant plusieurs années, et aujourd'hui...
Est-ce qu'il a arrêté?
Oui, mais il est à la retraite. il est à la retraite, c'est pour ton information.
Qui a bu boira, hein. Eh bien, ce qui se fait là, si. Avec nous, c'est toujours de l'enseignement.
Oui, mais non, on ne refuse pas. Mais ce qui est sûr, on parle de l'enseignement
dans les salles de classe. Pas quelque part.
Oui, on parle de l'enseignement formel, c'est-à-dire dans les salles de classe. Mais oui, Claude, en voyant toutes ces innovations ou ces réformes aujourd'hui, comment vous appréciez cela?
Oui, je crois que ce ne sont pas de simples effets d'annonce. L'intention n'est pas mal, parce que l'enseignement a besoin de beaucoup d'innovation, beaucoup de réformes. Et surtout, il faut l'adapter à l'époque, à son époque. Mais je me demande si ce n'est pas une évolution du ministre même. Qui a interdit l'utilisation des portables, du téléphone portable dans les classes. Et lorsque Eric parlait d'outils digitaux, il s'agit de quoi en réalité? C'est l'ordinateur, oui, c'est le portable, c'est
tout l'ordinateur.
Si c'est également l'ordinateur, moi j'ai envie justement de savoir, déjà on sait quand même qu'il y a des localités qui n'ont pas d'électricité et tout, mais est-ce que ça ne va pas constituer aussi de problème?
De toute façon, quand on veut faire, on veut mettre en place un système, il faut...
Se donner les moyens.
Les moyens, c'est l'essentiel.
Et je crois que même là... Je pense que c'est ce que le président du conseil disait hein, dans son message que tout le gouvernement ou l'État sera prêt à accompagner tout le système éducatif dans la logique de tout ce qui est préparé. Moi, je pense que c'est un peu vers ça. Et oui, on fait des élections, on fait des recensements électoraux. Là où il n'y a pas d'électricité, comment on fait?
On n'a pas besoin de groupes électrogènes.
Voilà, donc ils vont mettre les moyens pour le faire.
Oui, mais est-ce que on ne va pas, à mon avis, un peu trop vite? Parce qu'il y a des problèmes basiques qui ne sont pas encore résolus. Hein.
Comme quoi?
Les classes pléthoriques, les bâtiments. Je ne sais pas comment on peut mettre installer des ordinateurs dans des classes qui sont encore des paillotes, etc. Tout ça. Et le coût que ça peut donner et avec le Togo, j'ai des doutes profonds. J'attends de voir. Je ne veux pas jeter la terre, mais j'attends de voir. Hein. Il suffit pas de dire. Et à mon avis, ce qui est annoncé là, c'est plus facile à dire qu'à faire. On attend de voir.
On attend de voir. Gervais, est-ce que vous aussi vous attendez de voir? Et peut-être, c'est pas curiosité, vous attendez quand même ça soit réalisé d'abord avant de croire.
Ce sont des défis énormes. Il faut le reconnaître. Ce sont des défis énormes.
Nous sommes pas l'église.
Des défis énormes qui s'opposent à nos sociétés modernes. Mais il faut aussi adapter. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on fait face justement à ces défis-là. Donc aujourd'hui, dans le monde moderne, on ne peut quelque part former des apprenants qui ne soient pas sensibilisés ou ne soient pas en phase avec des outils digitaux. Donc, du coup, notre système scolaire doit s'adapter. Je crois que c'est sur cette lancée que le gouvernement est en train de se préparer et que, comme le président du Conseil a dit, on espère que les moyens seront mis à disposition du ministère et à tous les acteurs du système pour que on puisse justement réaliser ce projet qui va justement à l'avantage de nos emprisonnés. Je crois savoir qu'on a à cette réhabilité 7000 classes quand même. On a recruté aussi des enseignants. J'espère que on va décloisonner tout un petit peu les classes pour que la question des effectifs prétoriques qui se pose à tout le long des années depuis un certain temps soit résolu. Et donc nous espérons, nous avons bonne foi que on puisse justement initier les élèves aux outils digitaux.
Et je veux dire un détail là me vient à l'esprit. Et je remarque que c'est un ministre qui veut beaucoup innover. Hein, l'intention n'est pas mal, mais est-ce qu'on fait le bilan, du moins à mi-parcours? Est-ce qu'on évalue? Hein, on va d'innovation en innovation. Est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on voit l'impact avant de passer à l'étape suivante et avant de passer à d'autres innovations? Moi, ma question est là.
Eh bien, justement, Claude, votre question est là. Moi, ma question pour vous, c'est par rapport à cette innovation de deux enseignants dans les CM. Et oui, vous avez fait l'enseignement. Et quand on initie quelque chose de ce genre aujourd'hui, comment vous appréciez cela?
Je ne sais pas si c'est une imagination ou si l'idée est fondée sur un exemple, une expérimentation qui est faite quelque part. Et si ça vient d'une expertise qui a donné tel résultat probant ailleurs, pourquoi pas? Et je n'en sais rien. Si c'est une imagination, ça peut ressembler à une aventure, mais on crée aussi avec l'imagination. On crée aussi avec l'imagination. Et j'espère que ceux qui l'ont entouré, c'est des enseignants, les inspecteurs, ils ont de l'expérience. Ils savent crier. Je crois qu'il ne l'a pas dit. Il ne s'est pas levé un matin pour le penser. Peut-être qu'ils l'ont.
Non, mais c'est justement sur la base.
Mais on les jugera au résultat.
Oui, mais alors, Claude, c'est sur la base alors de ce constat. Et le constat est que déjà, il y a assez d'échecs alors en sixième. Et donc, pour faire une belle transition, pour que les enfants puissent être, s'adapter à ce qui doit se passer déjà en collège, donc il faudrait quand même qu'on les amène pas à pas à être habitués à deux enseignants.
Non, ça c'est un argument, à mon avis, qui ne pèse pas. C'est simplement pour s'habituer au collège qu'on va créer deux enseignants en amont à l'école primaire. Il doit y avoir plus de raisons que ça. Si c'est pour donner une meilleure base aux enfants, d'accord.
Oui, si.
Une meilleure base aux enfants, d'accord. En spécialisant les professeurs. Mmh. Mais est-ce qu'on a fait le diagnostic? Est-ce que le problème est là? Est-ce que le problème qu'on pose en aval, la difficulté à entrer dans le secondaire, est-ce que le problème est là? Moi, je n'en sais rien.
D'accord.
Mais d'accord.
Okay, Eric?
Non, je pense que, d'ailleurs, le professeur Kokoko a écrit à la veille de cette rentrée-là à toutes les inspections du pays en donnant un thème général à cette rentrée-là qui est, comment il l'a appelé, un apprentissage scientifique et citoyen. C'est ça le thème général de cette rentrée. Alors, c'est une orientation. Et dans cette proposition de deux instituteurs pour les cours moyens, il a bien dit que l'idée, c'est d'aller un peu plus vers les sciences. Et donc, C'est pour ça que je disais que oui, il y a un argumentaire qui tient par rapport à la formation de ces jeunes apprenants. Ah, oui. Voilà. Et donc, ici, tous ces... En fait, c'est pas deux enseignants par classe. Hein.
Oui, j'ai compris.
Ah, d'accord.
Donc, c'est... CM2, c'est... Voilà. C'est le même niveau. Hein.
Voilà. Et donc, il y a un qui prend une classe, mais lui, il est... des lettres.
Il est littéraire.
Il est littéraire. Ouais. Et l'autre, pour l'autre classe, il est scientifique. Ouais, ouais. Et donc, il vient dispenser les cours de sciences au CM1. Ouais. Il ne veut pas faire les cours de sciences au CM2. CM2. Voilà. Et vice-versa. Ouais. Et donc, voilà ce qui est proposé.
D'accord. Ah, oui, jamais
non, c'est, moi, je veux faire remarquer, c'est juste que je voudrais dire, ce n'est pas parce que les enfants au niveau, à la classe de 6e ont plusieurs enseignants qui les jouent. Hein. Je ne pense pas ça.
C'est ce que je dis.
Oui, oui, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, ou des enseignants dans chaque matière pour les élèves en 6e.
Mais le constat... Le constat est fait que l'adaptation prend du temps.
C'est-à-dire la transition.
Et donc, l'enfant, lorsqu'il commence par recevoir des cours en changeant de professeur, et pour s'adapter, et ça lui prend du temps. Il a été dit... Et ce n'est pas un constat qui est fait uniquement au Togo.
De toute façon, nous voulons bien voir le rapport ou soit les études qui le prouvent.
Voilà,
il y a
un projet qui était passé, j'oublie un peu le nom, et où on a évalué les enfants de la sixième en troisième, je crois, au collège, et les résultats étaient catastrophiques en sixième.
Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que les enfants qui montent en sixième, quel est leur niveau, quelle est leur base? Parce que nous savons aussi que le niveau d'année en année baisse. Mais bon, en tout cas, je ne sais plus ce qui
est. C'est 100%.
Ce qu'il y a né actuellement, pour le moment, je ne sais plus ce qu'il y a né actuellement. Mais il y a, en tout cas, de certaines années, les remarques ou les étudiants ont montré qu'il y a, en tout cas, baisse du niveau. Est-ce que on a justement joué sur cet aspect, ce paramètre aussi de renforcement de compétences et le niveau des enfants. Donc, je crois qu'il faut... Nous allons voir aussi l'étude et lire ces études-là pour avoir une idée et puis pour faire nos critiques. Mais je me dis que c'est un peu paradoxal que ce sont le nombre pléthorique, le fait d'avoir des enfants dans chaque métier, dans chaque unité d'enseignement qui fait que les gens échouent. Si les gens ont une bonne base.
Non, en fait, je pense qu'Éric l'a expliqué tout de suite. Ce n'est pas parce que les enfants ont beaucoup d'enseignants qui échouent, mais c'est que l'adaptation. C'est que, avant de s'adapter, ça prend du temps.
Non, okay. Je crois que, à mon avis, c'est pas.
On lira aussi le rapport.
D'accord. Claude.
Cette raison me paraît débile. Hein. Vous avez recentré la chose, et c'est là où j'ai été le plus convaincu. Hein, cette spécialisation qu'on veut implémenter en amont, pour accentuer les sciences, oui, ça, c'est encore plus convaincant. Le problème de la sixième, c'est que le passage est trop facile. Hein. Moi, je n'ai pas enseigné à l'école primaire, mais de plus en plus, cette facilité à faire passer les enfants d'un niveau à l'autre, c'est très inquiétant. Hein. On ne sélectionne plus, pratiquement plus. Hein. L'école, c'est aussi un parcours d'élite. Hein. Oui. Et pour que ça soit plus facile, il faut que l'encadrement soit très bien formé. Moi, j'ai encadré, par exemple, les élèves de l'école française. J'ai vu comment les choses se font. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, parce qu'ils n'ont plus de moyens. Vous avez l'impression, je suis un peu répétiteur, et vous avez l'impression dans leur programme de vous amuser avec eux. Mais ils sont souvent de programme. Vous avez l'impression de vous amuser. Mais à la fin, vous avez des enfants qui travaillent régulièrement, très solides. Hein.
C'est-à-dire qu'ils donnent des résultats.
Ils donnent des résultats. C'est l'encadrement. Il faut un encadrement solide des enfants bien formés. Il faut des outils pédagogiques mis à la disposition du corps enseignant.
Okay. Et il faut que les parents aient les moyens de doter les enfants. Hein, et puis il y a l'éternel problème de niveau de langue, de lecture. C'est les enfants qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle on les enseigne, alors ça pose énormément de problèmes. C'est des problèmes sérieux. Ce n'est pas s'adapter, s'habituer. Non, ça c'est. On verra ce que ça donnera. Peut-être qu'ils ont fait le diagnostic. On verra ce que ça donnera.
C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et je crois même que le professeur Kokoroko l'a dit quelque part, hein, que le constat est fait que le changement d'enseignant, la multiplication des matières et un emploi du temps plus chargé, hein, de nombreux élèves se retrouvent désorientés. Voilà le constat qui a été fait. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on veut déjà commencer par changer de...
Réajuster les choses. D'accord, bien, merci. On va quitter le sujet. On s'intéresse à cet autre sujet. Germain, c'est vrai que depuis hier, nous l'avons appris, il y a un nouveau report des élections des maires et adjoints aux maires qui a été annoncé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, Odabalo Awate. Alors, c'est pour la troisième fois qu'on reporte ces élections. Et pour cette fois-ci, c'est que on ne redonne plus à l'ordre de date, c'est-à-dire on nous dit tout simplement que c'est reporté à une date ultérieure. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des soucis?
Je ne trouve pas encore de soucis, en tout cas pour le moment. Parce que, première des choses, pour le report, le dernier report où on a fixé la date au 17, 18, 19, je crois savoir, c'est vrai qu'on n'a pas donné de raison officielle à ces reports, mais je crois savoir qu'il y avait eu des discussions au niveau
au sein du CPC,
où les acteurs politiques ont souhaité à ce qu'on ait, en tout cas, une certaine inclusion ou représentativité de toutes les forces politiques du pays dans le conseil municipal. C'est-à-dire qu'on sait que c'est le parti au pouvoir unique qui a eu la part de Lyon à ces élections, la majorité justement. Mais les partis politiques ont souhaité à ce qu'il y ait aussi des maires issus de l'opposition, des agents, mais où on ait aussi justement des présidents de commissions qui soient des élus de l'opposition. Donc on en est là et qu'on a reporté les élections. C'est vrai, on n'a pas donné de raison officielle, mais nous, on a analysé, on a interprété la chose comme quoi on voudrait donner une chance à cette nouvelle tendance ou à cette demande et que les acteurs sont en train de se concerter entre eux. S'il y a de nouveaux reports, je me dis peut-être que ça devrait être la même chose. Ça veut dire que les discussions peut-être sont ardues. Les discussions sont ardues et que les gens voulaient se donner du temps, justement, afin qu'on puisse régler toutes les questions qui se posent à ce qu'on ait des municipalités où on a toutes les forces ou tous les courants politiques dans notre pays. Et donc, si ça prend du temps, disons que peut-être c'est pour avoir des municipalités très, très inclusives, que ça peut-être prend du temps.
Oui, Eric, de report en report, est-ce que ce n'est pas du temps aussi qu'on perd? Parce que on a de grands défis également de développement dans nos communes, et donc il faut quand même que ces maires et agents aux maires prennent rapidement de fonction pour commencer par relever alors ces défis.
Je regrette que ce report-là n'a pas été annoncé plus tôt. Il y a eu déjà un premier report et un second. Donc, je pense que les gens s'apprêtaient à aller à leur siège pour la première réunion demain. Mais aujourd'hui, on sort un communiqué pour leur dire que la date est reportée, la réunion, les premières réunions sont reportées à une date ultérieure. Je crois que cela devrait se faire un peu plus tôt et que ça fixerait plutôt les gens. Toutefois, je remarque, et comme l'a dit mon collègue, que nous tous, nous avons eu à réfléchir un peu à la chose en nous, nous demandant si c'est pas plutôt le CPC qui a engendré ces reports-là, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises à la CPC, sinon l'accord déjà trouvé, CPC qui a poussé le ministre de la décentralisation à repousser les dates de ces premières réunions. Et secondo, je me dis, oui, il peut y avoir des contacts, il peut y avoir des discussions. Mais pour moi, c'est vrai, il ne faudrait pas aussi aller très vite pour qu'on se retrouve encore dans une situation comme en 2019 où des gens étaient allés à une élection, c'est vrai, pour devenir maire, mais ils s'étaient pas préparés pour le job. Et moi, je le dis clairement, on a eu toutes les difficultés dans presque toutes les communes. Et là, le constat est réel. Il y a des communes qui n'ont pas du tout évolué. Et la gestion n'a pas été cela. On a remarqué même des gens dans des communes qui n'arrivait, enfin, dans le conseil communal, qui n'arrivait même pas à s'entendre sur le minimum pour faire avancer les dossiers. Il y a eu des blocages, etc. Donc, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas, sincèrement, prendre ce temps-là, si vous voulez discuter et asseoir des conseils municipaux dignes de ce nom pour faire avancer, comme tu l'as dit, parce que le développement ne peut pas attendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre du temps pour bien discuter? Je me dis, si cela se fait bien et que les gens sont d'accord par rapport au programme qu'ils auront dans leur commune, je crois que les choses iraient mieux pour nous tous. Je pense que on dit aujourd'hui que c'est à une date ultérieure que ces premières réunions-là sont reportées. Quand est-ce que les discussions vont finir? Il faut que chaque partie... Parce que en réalité, quand les discussions durent aussi, c'est parce que certains ne sont pas d'accord sur certains points. Et si vous voulez qu'on gère ensemble, il faut qu'on s'entende sur le minimum. Ce n'est pas en face du monde entier qu'on va commencer par se tirailler. Tel va dire « mon maire a fait ci », l'autre va dire « mon adjoint était comme ça », etc. Et donc, je crois que ça ne peut pas faire avancer nos communes.
Mmh. Claude, c'est vrai qu'il y a d'abord le retard de la formation du gouvernement et aussi pour la mise en place alors du conseil municipal dans les communes. On voit aussi déjà ce retard parce que on se dit normalement, ça doit se faire pour que du moins le développement ou les défis du développement soient relevés.
Le Togo, c'est toujours une originalité. Et dans ma bouche, c'est pas un éloge.
C'est de l'ironie.
Vous savez, je ne sais pas pourquoi on aime compliquer des choses qui sont apparemment simples. Et si on devait faire des négociations, pourquoi on a fait encore des élections? C'est pas la peine. Il fallait faire ça en amont. Il fallait faire ça en amont, s'entendre. Par exemple, les municipales, dans certains pays même, les partis politiques ne sont pas autorisés à concourir. On confie ça à la société civile. Mmh. Et on se comprend mieux. On sait que la cible, c'est le développement. Tout le monde est intéressé. Et ça va très vite. On fait les élections. Certains se vantent d'avoir tout raflé. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Et lorsqu'on dit des partis politiques négocient, il s'agit de quel parti politique? Bon, je ne sais pas. Parce que le paysage même est confus.
Mais certainement, des partis politiques qui ont trouvé quand même des conseillers municipaux lors de ces élections.
Il y en a, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est opposition. Hein, l'opposition est composée de quoi? Il y a des gens qui accompagnent le pouvoir et qui se disent aussi dans l'opposition. Et il y a une opposition qui est là pour faire l'opposition. Alors, et cette opposition est à la fois opposée au pouvoir et opposée à l'opposition du pouvoir. Bon, alors, le paysage est un peu confus. Si c'est une négociation entre l'opposition du pouvoir et le pouvoir, bon, je peux comprendre. Hein. Si c'est une négociation entre ce qui est traditionnellement désigné comme opposition et le pouvoir, on sait souvent à quoi ça aboutit.
Mais est-ce que ça veut dire que quand on est dans l'opposition, on ne négocie plus?
On peut négocier, à mon avis, sur des questions d'intérêt national, surtout par rapport à des enjeux qui externes, hein, à mon avis. Sinon, dans un pays de démocratie, ceux qui ont gagné les élections gouvernent, ceux qui sont dans l'opposition critiquent, font des propositions et on avance. C'est un engrenage. Hein. Nous sommes à l'école de la contradiction. Hein. Et on veut toujours être d'accord sur tout. Ça n'a pas de sens.
Est-ce que la négociation ne fait pas partie aussi de la politique?
Oui. Et puis, le secteur dont nous parlons, c'est le développement à la base, c'est le développement communal. Ce qui fait que tous les acteurs qui sentent qu'ils ont un idéal de développement pour leur milieu d'origine ou les milieux où ils vivent, je crois qu'ils peuvent se prévaloir d'apporter leur pied à l'édifice. Et donc, il est de bon ton à ce que ces gens-là aussi participent à la gouvernance de leur commune. Et donc, c'est dans ce sens que je pense que la proposition de faire en sorte que le parti qui a gagné, en tout cas à 75% les élections municipales, ne soit pas le seul justement à gouverner nos localités. Et comme nous savons, c'est une question d'hommes. Et c'est, vous avez vu le nombre de formations politiques qui ont participé ou d'indépendants qui ont participé à ces élections locales, c'est énorme. Donc, les discussions peuvent prendre du temps, à mon sens. C'est en ce sens que les choses peut-être traînent. Mais s'il y a d'autres raisons, les enquêtes nous pousseront à le chercher. Maintenant, s'agissant de la question des oppositions au Togo, à mon avis, il y a un problème, à mon sens, puisque depuis les années 90, il y a un courant qui voudrait définir l'opposition selon sa convenance. Est opposition dans le temps, les descendants de Cuite, hein, vrais opposants. Au moment où monsieur Olympio était très en vue, c'est eux qui donnent le qualificatif ou qui attribuent la paternité.
Et qui donnent la bonne définition.
Oui, hein. que si vous êtes opposant, c'est eux qui doivent le dire. Et j'ai entendu un jour un acteur politique sur les médias qui disait, quand il allait chez Jésus-Christ à Accra, il lui prenait en aparté, toi, ton papa a travaillé avec mon père dans le cuit, donc toi, tu pourras me dire la vérité. Donc, il n'a que confiance à ceux qui sont des descendants peut-être biologiques du cuit. Et au début aussi, on n'est pas opposant qui le veut. Mais aujourd'hui, je pense, à mon sens, à mon humble avis, qu'on doit dépasser ces clivages, ces considérations, pour savoir que ceux qui ont une proposition à faire pour le développement du pays et qui se situent dans l'opposition et qui ont peut-être des idéologies ou des approches de gouvernance divergentes des nôtres et qui ne sont peut-être pas historiquement de courant à Bloré ou même qui sont soit progressistes de leurs descendants sont opposants et donc il ne faut pas mettre aussi de la division dans la grande famille des oppositions de l'opposition.
Vous voulez que je pose une question, je ne suis pas journaliste à mon ami, et s'il y a échec dans ce conglomérat là, moi je l'appelle conglomérat, et à qui on va attribuer cette expérience. Et s'il y a des dividendes à ramasser, à qui?
Mais quand il y a les dividendes, c'est tous les acteurs justement qui ont concouru au développement communal. C'est à eux sans exception. C'est vrai que le parti qui est au pouvoir va essayer de tirer le drap de son côté parce que c'est eux qui sont aux affaires. Oui. Ils vont tout faire qu'ils puissent surfer sur cette réussite et vanter leur idéal politique qui est l'inclusion, la concertation avec tous les acteurs. Ben le bénéfice, c'est pour tous ceux qui ont concouru à ce qu'on ait ce développement-là. D'accord. Maintenant, si ça ne marche pas, c'est tous les acteurs justement qui ont participé à cela qui ont échoué. À mon
d'accord,
sens.
Alors on va aborder ce dernier sujet pour justement ce débat. Eric, on va parler alors de cette tension entre l'État togolais et l'Union européenne. On sait que il y a eu une résolution tout récemment concernant la détention de Aziz Goman ici au Togo. Et avec cette résolution, il y a l'Union européenne ou le Parlement européen, j'allais dire, qui demande à l'État togolais alors de libérer immédiatement Aziz Goman. Et par après, on sait ce qui s'est passé, bien sûr. Oui. Il y a le ministre alors des Affaires étrangères qui a convoqué le représentant justement de l'Union européenne ici au Togo pour des explications. Il y a le journal Liberté qui revient sur le sujet. Le journal écrit « Fuite en avant et mensonge d'État du régime Niasingbe pour ne pas libérer Aziz Goman et tous les autres prisonniers politiques ». Oui, Eric, quelle appréciation vous faites alors de cette tension entre l'État togolais et l'Union européenne?
D'abord, je voudrais dire, même à son pire ennemi, il ne faut pas souhaiter la prison. Parce que la prison n'est pas un lieu où quelqu'un peut aller demeurer. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est en difficulté, et qui se retrouve à la prison, ma foi, il faut beaucoup prier parce que là-bas, on y rencontre tout. Peut-être que psychologiquement, c'est quelqu'un qui sera complètement atterré, et ou soit quelqu'un qui peut contracter certaines maladies, etc. Et donc, c'est un lieu qu'il ne faut pas souhaiter à son pire ennemi. Mais je constate quand même que lorsqu'on parle de prisonniers politiques et que l'État togolais estime que ces gens-là ne sont pas des prisonniers politiques, je crois que l'Union européenne devrait normalement faire une certaine démarche auprès de l'État togolais pour que le compatriote qui est en même temps leur compatriote soit libéré. Mais prendre une résolution en estimant qu'il s'agit là d'une violation des droits de l'homme de ce citoyen européen, je pense qu'on est allé un peu trop vite en besogne. Pour moi, l'État togolais dit que l'affaire est pendante devant la justice.
Et c'est encore pendant, je crois que c'est...
Non, il y a la condamnation,
voilà.
Oui, et tout.
Et donc, seul le chef de l'État peut lui donner
une grâce présidentielle,
ou soit la justice peut prendre une décision de l'élargir par rapport à certaines situations. Mais si on demande de le libérer, alors là, donc... Ça veut dire que le travail qui a été fait par la justice togolaise n'est pas considéré par l'Union européenne. Et c'est là où se pose le problème. Je crois que l'ambassadeur de l'Union européenne qui a été interpellé dans cette histoire-là doit forcément s'expliquer pourquoi l'Union européenne a pris cette résolution-là sans mener des démarches auprès de l'État togolais, puisqu'il y a une représentation diplomatique dans le pays. Et je pense que c'est la démarche qu'il fallait quand même faire.
D'accord. Claude, c'est vrai que dans les explications, l'État togolais dit que l'État, justement, est souverain et que avec cette affaire, avec cette résolution, il y a de l'ingérence dans la politique interne du pays. Est-ce que vous comprenez l'État togolais?
Moi, je... je me dis que il faut pas que nous demandions aux autres qui ont un autre regard et ils sont à l'extérieur d'avoir le même regard que nous. Bon, si c'est la résolution qui pose problème, est-ce que l'Union européenne a même des moyens coercitifs contre l'État togolais? C'est symbolique à mon avis, c'est très symbolique. Il est vrai que ça crée une pression psychologique, mais c'est toujours symbolique. Mais le problème, est-ce que ceux qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont contesté l'État togolais? Ils ont contesté le pouvoir. Et lorsqu'on conteste le pouvoir, et ces gens de personnes qu'on arrête, comment on les appelle, à mon avis?
Et à votre avis, c'est des prisonniers politiques.
Si c'est des prisonniers politiques, en démocratie, il ne doit pas y avoir de prisonniers politiques. Où on est en démocratie, mais si on met en prison des gens que même à l'extérieur, on trouve que ce sont des prisonniers politiques, c'est un aveu qu'on n'est pas en démocratie. Ou on est en démocratie, on les libère, et c'est pour prouver qu'on est en démocratie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut résoudre le problème.
D'accord. Oui, Germain, quelle est votre réaction sur justement cet aspect alors de la chose? Quand on prend d'abord l'Union européenne qui demande la libération sans condition, comment vous appréciez cela?
En fait, c'est une question, c'est la rhétorique qui est mal choisie à mon sens. Et pour moi, l'Union européenne pourrait demander une libération à titre humanitaire. Du moment où, comme mon confrère Eric l'a dit tout à l'heure, quand vous voyez la personne, il est malade, c'est vrai que, selon les informations, il a été à la clinique Biassa, qui est réputée un centre qui, justement, en tout cas, je ne vais pas faire de la publicité.
Mais oui, jamais, c'est vrai que sur ce plan, il y a déjà la Cour de la justice de la CEDEAO qui a condamné l'État togolais sur ce point. Et là, peut-être que l'Union européenne s'est basée sur ces choses pour dire qu'il y a plutôt alors une détention arbitraire.
Donc, en fait, le problème, c'est que de Lomé, justement, à Ouaga ou de Niamey à Nouakchott, aujourd'hui, les Africains les capitales africaines ont une certaine malaise quand l'Occident, quand à Bruxelles ou à Paris, on s'adresse à eux sur un certain ton que ces capitales.
C'est comme si on les donnait des injonctions.
Parfois un peu paternaliste et qui est à leur sens ostentatoire, vil et méprisable. C'est-à-dire que durant toute la colonisation, ou après la colonisation, quand les nations africaines ont été créées, il y a cette tendance de capitale africaine, capitale européenne, j'allais dire, de poser leur dictat en des termes un peu infantilisants aux nations africaines. Et aujourd'hui, avec cette multipolarisation du monde, les Africains, les pays africains s'émancipent. Et là, ils sont très, très mal à l'aise et que quand ça vient de l'Occident. Et donc, dans ce contexte précis de la chose, je pense que lorsque les nations européennes voulaient s'adresser, même si ce sont des questions des droits de l'homme ou de la protection de la vie humaine, de savoir les thèmes choisis pour ne pas, puisque ce sont des diplomates, pour moi, frustrer leurs partenaires africains pour qu'on puisse se sortir d'affaires. Parce qu'ici, il s'agit d'une personne, de la vie d'une personne qui est en prison et tout. Et donc, il faudrait justement trouver par la voie diplomatique, de savoir les termes choisis. Mais là, la question que je voudrais me poser, lorsqu'on arrête un acteur politique qui commet des infractions, pas pour ses opinions, est-ce que c'est un prisonnier politique? C'est aussi ça le débat. Lorsque vous êtes acteur politique et que vous allez peut-être commettre un homicide, vous n'êtes pas, et qu'on vous met en prison, vous n'êtes pas quand même un prisonnier politique. Je crois qu'on,
pour moi, le plus essentiel
dans le contexte précis de notre compatriote qui est en prison, c'est voir quelle formule qui va arranger tous les camps et quelle terminologie qu'un terme employé pour que on puisse très vite, en tout cas très rapidement, le faire.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, et puisqu'ils s'impatientent à rentrer en ligne. C'est sur le 90 86 35 35, 91 36 63 75. Et aussi, ils peuvent nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous reprenons l'antenne et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô? Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien.
Votre nom c'est?
Alain de Condomé.
Ah, monsieur Alain.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
J'aimerais demander à notre ministre là. Les écoles fermées depuis 4 ans.
Il n'est pas sur le plateau ici, le ministre, bien
oui,
sûr.
Oui, oui. C'est-à-dire, j'aimerais demander ceux qui parlent d'innovation, là. Les écoles fermées depuis 2022, le lycée de Nicolas-Poué, et le lycée de Nicolas-Poué, le lycée de 2 février, l'école primaire publique de Talegba et l'école du 23 septembre. Qui sont restés toujours comme ça. Oui. On dit quoi? Mais on parle d'innovation. Moi, je ne comprends pas.
D'accord. Et je sais qu'il y a des raisons qui ont été données pour la fermeture de ces écoles à 90, 86, 35, 35. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, tout bon, dimanche.
D'accord, allez-y.
Salut tout le monde là-bas.
D'accord.
Surtout mon frère Claude aussi.
D'accord.
Est-ce qu'il a besoin d'aller donner l'exemple des élèves de l'école française? Il n'a qu'à parler de nous. Quand il nous avait eu au collège, on disait, on vitait les secondes. Ou bien il n'a pas vu qu'on était bien, mais ça là.
Non, mais quand, pour... Basile,
oui.
Vous l'avez suivi quand il donnait justement cet exemple, c'est parce que...
Oui, non, voudrait... mais c'est une manière de le dire un peu, ça.
D'accord, ok, maintenant, allez-y sur... oui, il a compris, allez-y.
Oui, oui. Bon, notre école, on aura toujours des problèmes avec cette école-là, surtout avec le pupilla qu'on a choisi maintenant, quand les gens viennent louer le professeur Koufouroko et d'autres, oui, ceci ou cela. Moi, je ne vois pas faire notre école de cette manière. La manière dont l'éducation est diluée jusqu'au dernier degré, causant ainsi la baisse criarde du niveau, je ne sais pas ce que nous faisons. On ne fait rien du tout. L'autre fois, sur la pyramide, il y a quelqu'un qui ont dit qu'il est quoi, une inspection quoi. Et les gens venaient dire qu'il a bien fait une émission, qu'on a qu'à faire ça.
Basile, ouais, intéressons-nous au sujet. Ok, merci beaucoup. Merci Basile, ouais. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Oui. Bonjour.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, Basile, bonjour.
Oui, c'est Évangéliste Senghor.
Oui, salut même, je salue le plateau. Hein.
D'accord, le plateau aussi vous salue.
Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie pour la mission. C'est votre amen. Ministère aussi. Hein.
Amen.
Et tous les intervenants, là, c'est Dieu la bénisse. C'est pas qu'on a de l'argent et qu'on veut jeter ça par la fenêtre. Nous voulons que notre pays soit bon. C'est pour cela que maintenant, nous voulons qu'apporter notre pierre. Il faut que les autorités, surtout le PCR, quoi là, je parle de président, l'ancien président, là, qu'on a signé. Nous, les auditeurs, il faut qu'ils nous écoutent. D'ailleurs, Pascal, vous savez, et je dis ça tous les temps, nous sommes là pour un petit temps. Et quand une personne décède, j'ai vu des gens, une personne décédée avec la joie aux lèvres. Il vivait. J'ai vu aussi quelqu'un dans son cercueil décédé avec les larmes sorties. Il y a le paradis et l'enfer.
Vous l'avez vu, Senghor?
Oui.
Vous avez vu quelqu'un dans son cercueil avec les larmes?
Oui. J'ai vu, moi je suis à la mort, non? Je dis, j'ai vu des gens, une personne, deux, trois fois. ils sont dans le secteur, les larmes coulaient. J'ai vu aussi quelqu'un, il s'est couché, c'est comme il dormait, les sourires. Pourquoi avez... Quelqu'un qui vit là, sa vie est très très bonne. Il va au paradis, au repos. Quelqu'un, vous savez, ce n'est pas qu'une personne décède là, qu'on amène les pasteurs, les prêtres là pour prier que le Dieu va. Dieu n'est pas un exil, il n'est pas un imbécile. Toutes les actes que tu as posées sur la terre, tu le reconnaîtras. Par exemple, la prison. Je dis tous les temps que nous sommes tous des Togolais. C'est vrai, parce que vous êtes un papa de la maison. Vous avez vos enfants. Quand un enfant qui fait quelque chose, vous le journaliste là-bas, vous le corrigez. Et pour un temps, vous le pardonnez. Mais voilà que Togo, dans mon petit pays, la nation, on prend une personne, le fout en prison. Des années. Une personne. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu es content, tu ris, c'est moi. J'ai la force, je peux te mettre en prison, je peux tout faire. Ah ok, tu ris aujourd'hui, mais je vais te marier. Mais c'est plus terminé que présence du Dieu sur la terre.
D'accord, merci, merci Évangéliste Senghor. Évangéliste Senghor qui voit des corps inanimés, mais avec de l'émotion. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour monsieur.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue. Votre nom c'est...
Oui, c'est Mathieu de Yokoué.
Ah, Mathieu de Yokoué, allez-y Mathieu.
Oui, c'est des yeux constatés. Et j'aimerais prier au maire à qui, vous voyez, comme la voie qui mène vers vous là, les trous géants qu'on trouve en pleine chaussée, quand j'oubliais au niveau de Bosnie et un peu partout dans la ville, c'est dangereux, ça c'est la responsabilité des maires. Même si construire la route ne les incombe pas, au moins ça, ils peuvent empêcher au moins ne serait-ce que trouver des choses pour faire savoir aux riverains la nuit qu'il y a des obstacles. Au lieu que ça soit comme ça, j'ai failli laisser ma peau. Il est nuit là. Merci, monsieur.
Merci, Mathieu. Depuis Yokoué, bonjour, Pascal. On peut avoir 5 enseignants au CM1 et CM2. Ça ne résout pas le problème. Le problème se trouve au niveau des disciplines et le niveau des élèves proposés. C'est justement à Gauthier, Kodjo qui nous écrit. Allô?
Allô?
Bonjour.
C'est Canal FM?
Oui, c'est Canal FM. Votre nom, c'est...
Allô?
Allô, je vous écoute. Votre nom?
Allô?
Ah, décidément, il ne nous écoute pas. Et 90, 86, 35, 35, on reçoit un autre auditeur. Allô?
Bonjour.
Bonjour, madame ici.
Oui, on revient encore ce matin. Je veux dire. Oui, voilà. Je ne comprends pas des gens qui vont supporter un régime qui a braqué toute une république. Et puis, il en jouit sans développement. Comment on peut supporter un truc pareil? On peut trouver des circonstances atténuantes. Le mandat de 5 ans s'est passé depuis 20, 30, 40 ans. Les gens viennent nous supporter ça. On charcute notre constitution à guise jusqu'à la cramer la dernière fois. Comment on peut faire ça? Comment on peut supporter un truc pareil? On a militarisé le pays. On gouverne à la baïonnette. Vous avez vu ça où? Les écoles, tout ça là. La dernière fois, hier, on parle de la sécurité, tout ça là. Il n'y en a pas besoin. Ils n'ont qu'à ramener leurs flics, tout ça là, dans les casernes. On n'en a pas besoin pour traumatiser les enfants. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a tellement de choses. On n'a pas la tête libre. Et le frère, là, le grand, il produit des bouquins. Quand ça va alterner, là, on aura la tête pour bouquiner encore, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire, on est mal dans le pays.
Ok, merci. Ouais. Merci, madame, merci pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Bonjour, le plateau. On dit très souvent que la main qui donne ordonne où se trouve notre souveraineté. Et si tout le temps on demande et quand on nous donne des injonctions, nous ne voulons pas respecter et que nos autorités se ressaisissent. C'est Kokou qui nous écrit depuis Adido Gomé. Allô?
Oui, je vous considère ce matin.
Et Patrick?
Affirmatif.
Nous vous considérons aussi.
Merci. Salut, monsieur Assur Bouti, là-bas.
Justement.
Et les autres confrères qui sont avec vous. Bon, parce que je ne sais pas si vous avez fait aussi ce constat. Si tel est le cas, vraiment, je prierai ceux qui sont concernés, ou bien, je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'actuellement, vos enfants qui sont en classe de CME n'ont pas leur livre de français ni de mathématiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi. Quand vous allez sur le marché, les bonnes femmes vous disent que c'est en état, et je ne sais pas, que ça va venir. Mais on ne sait pas, la rentrée est déjà là. Et ces enfants-là, mais les autres classes ont déjà débuté leur cours. Mais le CM1, là, à quand est-ce que les livres seront disponibles pour que nous, les parents, puissions les acheter?
C'est le constat qui est fait sur le terrain, c'est ça?
Oui, oui, c'est le constat. Il n'y a pas les livres de mathématiques ni de français de CM1. Si, bon, vous le dites, c'est une radio de grande écoute. Mais quelqu'un aussi peut, si je dis le contraire, quelqu'un peut en témoigner aussi.
D'accord.
Puisque moi, j'ai fouillé dans les mains, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Maintenant, de deux, c'est bien beau, hein, c'est bien beau d'initier l'anglais ou bien deux enseignants dans les classes CM1, CM2. Mais la question, l'interrogation qui reste à poser, est-ce que ces enseignants qui sont censés de donner le cours d'anglais, est-ce que ces enseignants-là sont formés? Si oui, pour combien de temps? Je n'ai rien contre la décision du ministre. Et je ne suis ni enseignant aussi, mais c'est un constat. Est-ce que ces enseignants-là sont outillés? Combien de temps ils ont eu une formation en anglais pour pouvoir transmettre ça aux élèves? Pour la classe de CM1 où il y aura deux professeurs, là. Est-ce que je vois quoi? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. A-t-on le droit, au nom de la souveraineté, à tenter impunément et quotidiennement les droits et libertés de ceux qu'on est censé gouverner? C'est M. Baba qui pose la question. Allô? Allô, bonjour. Allô, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Bon, pour le en deux volets, franchement, est-ce que la diplomatie ne peut pas jouer un grand rôle là-bas pour qu'on puisse trouver quelque chose de mangeable pour tout le monde? C'est difficile. C'est pas bon de laisser quelqu'un souffrant. Quand vous voyez une image de ce monsieur, franchement, ça fait du ridicule. Donc il faut que la diplomatie fasse un travail là-bas pour qu'on puisse trouver quelque chose tangible pour nous tous. Merci.
Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM, l'Union européenne, Grèce à elle. Nous avons les deux cours d'appel, Lomé et Kara, la prison de Kpalimé, et dans beaucoup de domaines, elle contribue, c'est malheureux, qu'on dise qu'elle fait une pression sur le gouvernement en matière de droits de l'homme. Si le Togo est souverain, pourquoi demander toutes ces aides? C'est justement un auditeur qui Allô. Nous envoie cela. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Ali.
Ah, Ali, allez-y.
Oui, nous appelons pour la paix au Togo. S'il vous plaît, si un sujet concerne un être humain, je ne sais pas pourquoi d'autres veulent détourner l'attention de l'essentiel. On laisse la proie pour l'ombre. Pourquoi tes amis à tes côtés là-bas nous parlent de cette
Ali.
Je vais le dire clairement.
Ali, je vous arrête tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Dites-nous cela. Votre manière de penser, qu'est-ce que vous proposez? Oui.
Un être humain ne doit pas être méprisé, peu importe la circonstance dans laquelle il se trouve.
Ali.
Quelqu'un qui est en prison, on a jugé, on a condamné. Maintenant, on nous fait savoir que l'affaire est pendante. C'est quelle histoire? Un être humain, peu importe ce qui lui arrive, on doit lui sauver la vie d'abord. On ne met pas quelqu'un en prison pour le tuer. C'est ce qu'on a constaté au Togo. Tout ce qu'on met en prison, c'est pour les détourner de leur objectif et surtout détruire leur vie. Pourquoi? La prison est faite pour redresser et non pour détruire les vies. Mais on en utilise pour détruire les jeunes et surtout les actifs. Et l'avenir est où? Vous nous parlez d'innovation. Quelle est l'innovation? L'innovation, c'est dans le fait de quitter la présidence pour être Premier ministre et changer les noms pour détruire le pays. Non. L'Union européenne a suivi l'accompagnement de la commission de CDAO. CDAO a déjà condamné. Elle a demandé de relâcher la personne. Mais pourquoi? On nous classe parmi les pays voyous. C'est le comportement là qui nous fait ça.
D'accord, merci Ali pour votre intervention. Il est toujours important d'être courtois. Dans nos propos, hein, tout ce que nous voudrons dire, soyons toujours courtois. Parce que celui qui parle aussi, c'est un humain. Quand on vient sur le plateau pour dire quelque chose, justement, et là, ça nous engage. Et quand vous, vous êtes aussi à la maison ou dans vos bureaux où vous vous trouvez et que vous nous écoutez, quand vous voulez intervenir, soyez toujours courtois, puisque moi, je le dis et je le répète, il faut toujours cette courtoisie pour créer cette bonne ambiance entre nous. Si même nous ne sommes pas d'accord avec l'autre, on laisse le temps à la personne alors de le dire, mais elle le dit aussi dans des termes très courtois. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous revenons en plateau, puisque Alice est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Eric, vous avez écouté les uns et les autres réactions?
Non, je vais commencer par Monsieur Ali. Je lui souhaite bon vent, mais de suivre cette émission-là avec beaucoup plus de discernement. Quand j'ai dit, c'est de moi il parle directement là, hein, et quand j'ai dit l'affaire est pendante devant la justice, vous m'avez tout de suite corrigé. Mmh. J'ai dit, ah d'accord, mmh. Si c'en est ainsi, donc il fallait quand même que l'Union européenne se rapproche du pouvoir togolais pour demander, enfin de manière plus diplomatique, la libération de ce monsieur. En aucun moment, personne n'a méprisé qui que ce soit. J'ai commencé mes propos en disant que la prison n'est pas un lieu qu'il
faut... Oui, tout à fait, je me souviens.
Recommander à son pire ennemi. Donc, il faut suivre l'émission avec plus de trucs. Je sais de quelle tendance il est, je sais pourquoi il est venu. Et après, il dit, quelles innovations. J'ai écrit qu'il y a beaucoup d'innovations dans le système éducatif, où je vais peut-être corriger quelqu'un qui parlait tout à l'heure de l'école du 13 janvier. C'est l'école du 23 septembre, non? Mais c'est du 13 janvier
qu'il parlait. Plutôt.
Alors, je voudrais dire tout de suite que toutes les écoles qu'il a citées, que toutes ces écoles-là sont en réhabilitation. Mmh. Il y a eu des appels d'offres et des gens ont déjà commencé par travailler. Et donc, c'est tout simplement que c'est pas encore fini. Et donc, on ne peut pas utiliser des bâtiments qui ne sont pas totalement en place.
Je me souviens, nous avons reçu même le ministre des enseignements primaires et secondaires ici qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles alors ces écoles sont fermées.
Et en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais, je crois que également, il y a eu le directeur des ressources humaines hein, du ministère qui a été reçu sur une chaîne qui a expliqué que pendant 2 mois au moins, tous les professeurs qui doivent enseigner l'anglais au primaire ont été formés pendant 2 mois. Et donc, je crois que le ministère peut encore donner des détails par rapport à tout ceci. Et donc, c'est dire que aujourd'hui, on parle d'innovation parce que c'est des choses qui n'existaient pas dans notre système éducatif. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers quelque chose. On veut aboutir. C'est ce que je dis tout le temps. Quand vous avez un projet, il faut vous fixer des objectifs. Et donc, je crois que nous ne sommes pas là pour défendre X ou Y, mais nous tous, nous voulons quand même que le système éducatif togolais puisse aller de l'avant et qu'on ait des hommes et des femmes bien formés.
D'accord. Merci beaucoup, Eric. Oui, Claude?
Oui, non, je crois que nous voulons tous le développement du pays, hein, du Togo, hein, ça je le crois. Hein, pouvoir comme opposition, juste si nous voulons le développement du Togo. Sur ça, nous sommes tous d'accord. Nous devons donc conjuguer nos efforts pour quitter le climat de peur qui règne au Togo, hein, pour aller à la vraie paix. Voilà, c'est très important.
D'accord. Merci. Merci. Germain?
Non, c'est pour premièrement faire remarquer que en étant journaliste, on est souvent entre deux feux. Hein. On est souvent entre deux feux. Parfois, quand votre développement sied à une partie de l'auditoire, bon, de l'opinion, on vous applaudit. Mais ces mêmes personnes, si demain il y a en tout cas un développement qui ne va pas dans le même sens que ceux qui désirent, mais on vous lapide vraiment. Donc bon, en tout cas malheureusement en tant que journaliste,
lapidé, c'est allé loin
verbalement peut-être.
Bon.
On est en train de... Mais par rapport à la question de notre notre concitoyen Aziz Gouma, qui préoccupe un certain nombre de citoyens également. Je pense qu'il faut trouver, comme Sylvain l'a dit, une formule diplomatique et pour pouvoir le faire sortir d'affaires. Sinon, si nous allons dans un glissement, insidieux, dans un plan de fer, ça ne va arranger personne. Donc, il faudrait, comme Sylvain l'a dit, trouver une formule diplomatique
pour pouvoir
le faire sortir d'affaires.
Merci beaucoup, Germain. Germain Zoubidi, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Jeunesse Info et aussi du site d'information Interface. Merci d'être passé dans cette émission puisque nous sommes à la fin. Merci à Eric Parcoudjo-Jossom d'être passé dans cette émission. Eric, vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci à Claude Assiobotis d'être passé alors dans cette émission. Claude, vous êtes chroniqueur et justement et vous êtes aussi critique littéraire, analyste littéraire et également vous intervenez sur des sujets bien sûr politiques et des sujets d'ordre de tous les secteurs et parce que vous êtes aussi citoyen. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.